Alors, rebonjour tout le monde. On va reprendre la journée. Comme vous allez le constater, on a un petit changement à l'horaire. On a une participante qui a dû s'absenter pour raison de santé à la dernière minute, malheureusement. Donc, on va juste intervertir les séances. Donc, on va commencer avec Maud Lemieux et ensuite Mélissa Jane pour finir avec Binta à la fin de la journée. Donc, voilà, je vous présente tout d'abord Maud Lemieux. Elle est étudiante en première année à la maîtrise en études littéraires au département des lettres de l'Université Laval. Sous la direction d'André Mercier, elle travaille sur l'altérité comme mode transitoire entre mémoire et oubli dans un enfant à ma porte de Ying Cheng et dans la trilogie coréenne d'Ohok Chong. C'est Ohok ou Ohok?
Je pourrais pas le dire,
Ok, Ohok Chong. Voilà.
Merci à tout le monde d'être là. De prime abord, questionner le personnage contemporain dans les écritures migrantes, c'est interroger la notion de personnage en elle-même. C'est-à-dire, peut-on dire qu'il y a vraiment un personnage lorsque les écrivains migrants préconisent souvent l'autofiction afin de raconter le récit de leur exil? La définition de l'être fictif établie par Christine Montalbetti permet de comprendre davantage le personnage de fiction, spécifiant que le personnage de fiction n'a d'existence qu'à l'intérieur de cet univers de fiction, une existence qui n'est ainsi que par métaphore, qui est d'un ordre d'abord textuel, langagier, puis de cet ordre intangible de la représentation intérieure, pardon, que façonne, en s'appuyant sur le texte, l'imagination du lecteur. Dans l'œuvre de Ying Chen, écrivaine d'origine chinoise ayant immigré au Canada en 1989, la construction d'un personnage dont l'identité est en mouvance participe à la création d'un univers fictionnel singulier qui travaille à sa propre cohésion en dehors du rapport aux origines. Le personnage narrateur, dans la deuxième partie de l'œuvre de Chen, rencontre une réalité plurielle et mobile qui va de pair avec la nécessité pour l'écrivain immigrant de se créer, selon l'auteur et théoricienne Régine Robin, une identité fictive. En affirmant donc d'appartenance ni à son pays d'origine ni à son pays d'accueil, Chen exprime la sensation permanente de vivre dans un entre-deux, situation qui trouve sa résolution dans l'écriture grâce à la fiction, et je la cite: Mon vrai nid se trouve dans les mots, entre les lignes, dans ce presque rien qu'on ne peut même pas désigner comme une place. C'est en ce sens que nous affirmons que le personnage, depuis le roman Immobile paru en 1998, est en décalage, non seulement par la présence de contradictions et d'ambivalences énonciatives, mais aussi en raison de l'écriture de l'exil qui, toujours selon Régine Robin, est une écriture qui, et je la cite, désinstalle, dématernise, déterritorialise, arrache à l'enracinement, creuse un écart, rend visible la perte, le manque. Lorsque Robert Berouet-Auriol a traité pour la première fois des écritures migrantes en 1987, la pluralité du terme annonçait déjà la difficulté d'identifier des caractéristiques précises pouvant englober des esthétiques différentes. Michel Biron, François Dumont et Élisabeth Nardot-Lafarge, dans Histoire de la littérature québécoise, mentionne que ces écrivains semblaient à première vue avoir comme seul trait commun de provenir d'ailleurs, ajoutant, et je cite, que dans les années 2000, une certaine saturation de la catégorie, voire de l'étiquette qui est devenue l'écriture migrante, est sensible autant chez les écrivains associés à cette mouvance que dans les travaux de certains critiques qui ont contribué à l'élaboration de cette catégorie. Fin de la citation. Tandis que les premières œuvres de Chen se sont inscrites au cœur des préoccupations suscitées par cette catégorie, c'est après ses trois premiers romans, soit La mémoire de l'eau, Les lettres chinoises et L'ingratitude, tous parus entre 1992 et 1993, qu'elle amorce une œuvre davantage minimaliste. D'ailleurs, une des conclusions qu'ont établies Christian Hommel et Christian Dubois dans l'analyse de ces trois œuvres nous servira de point de départ, ceux-ci croyant, et je les cite, que seul le détachement de sa nation, de son pays d'origine permettrait à l'écrivain migrant de briser le silence et d'ainsi défendre l'intégrité de son être. Fin de la citation. A contrario, nous croyons qu'en dépit de cette prise de distance quant au passé, la fiction, dans la suite de l'œuvre, ouvre à la métaphorisation de la pluralité identitaire. La posture de décalage revendiquée par la narratrice autodiégétique témoigne d'une énonciation faillible, marquée par l'altérité. Comme la deuxième partie de l'œuvre de Chen est composée de 8 récits où évoluent les mêmes personnages principaux, nous ferons une analyse approfondie d'Un enfant à ma porte, paru en 2009, que nous ferons dialoguer avec Querelle d'un squelette avec son double, publié en 2003. Au premier abord, une suite romanesque présuppose la présence d'une certaine cohésion et ou d'une filiation entre les récits. Pourtant, l'apparition ponctuelle du personnage narrateur féminin et de son mari a, ne forme pas de véritable continuité narrative ni une suite d'épisodes, telle que le note Gabrielle Parker à propos de l'ambivalence féminine dans l'œuvre de Ying Chen, et je la cite, « L'ensemble constitue un méta-récit au cours duquel la narratrice meurt et revient dans une quête incessante de points d'ancrage. À mi-chemin entre le rationnel et l'irrationnel, mais aussi entre le vraisemblable et l'invraisemblable. » Fin de la citation. Cette posture de la mobilité alimente la pluralité fictionnelle de ce personnage, dont les caractéristiques identitaires sont dispersées entre les récits. Ceci nous révèle d'une part diverses informations, mais qui ne s'assemblent pas en un tout, la narratrice énonçant elle-même leur discordance. Le personnage féminin n'est jamais tout à fait le même d'un récit à l'autre, contribuant à ce sens à brouiller sa représentation textuelle en évoluant au gré des affirmations et des infirmations. Dans Un enfant à ma porte, la narratrice autodiégétique raconte l'année pendant laquelle elle a recueilli un enfant sous son toit, un enfant qu'elle a littéralement trouvé dans son jardin. En commençant par un chapitre en italique, le récit met déjà en place non pas son incohérence, mais bien celle de la vision du monde d'un personnage affirmant la faillibilité de sa mémoire, expliquant, et je cite, « Quand de tels instants où aucun récit, aucun système et aucune croyance ne me semblent possibles, je suis sûre au moins de cela, il était venu à moi, j'avais eu un enfant. » Ce chapitre, narré au présent de l'indicatif alors que l'entièreté du roman, elle, est au passé composé, est mis à l'écart du reste du récit, comme s'il s'agissait d'une parenthèse soulignant l'instabilité d'un discours jamais totalement assumé. Querelle d'un squelette avec son double est d'ailleurs un récit où les chapitres s'alternent, alors que deux narratrices s'échangent une forme de dialogue intercalaire, où l'italique permet de les différencier d'un chapitre à l'autre. Se servant de cette esthétique ad nauseam pour signifier la singularité de ces deux voix, elles affirment pourtant leur unité, et je cite, comme une réalité que vous connaissez mais que vous n'aimez pas entendre, à savoir que vous et moi nous sommes absolument sans essence ni constitution, notre individualité est une extravagante illusion. » Fin de la citation. Remettant ainsi en doute leur différence, l'italique, quant à lui, suggère davantage la pluralité, la multiplication de voix dans une même identité fictive. En créant un contraste d'abord typographique, cela introduit déjà l'instabilité du texte en rapport à la voix narrative. N'étant pas d'une identité et d'une présence forte ou stable, la narratrice se garde de divulguer au lecteur des éléments biographiques aussi généraux que son âge ou son nom. L'absence de référence au passé dans Un enfant à ma porte isole l'être fictif dans un récit dont la rareté des dialogues amplifie également son décalage. L'arrivée de l'enfant symbolise un salut identitaire pour cette mère en devenir, l'amenant d'abord à s'ouvrir à l'autre et à sortir d'un discours majoritairement de pensée. Elle est d'emblée reconnaissante. Que de gratitude ne devais-je pas à cet enfant, c'était lui qui m'avait momentanément déculpabilisée de ne pas assumer le rôle implicite de mère qu'impliquait ma présence sous le toit de A. Espérant réconcilier la pluralité de ce qu'elle nomme ses vies antérieures, par le biais d'une nouvelle identité à construire et donc d'un autre rapport au monde, la narratrice croit se conformer momentanément à un rôle social bien défini. Et je cite, « À ce moment-là, j'avais sans doute l'air d'une vraie femme », se dit-elle. Dans Le deuil de l'origine, Régine Robin affirme que l'écrivain exilé ne peut que rêver d'atteindre l'unité, puisqu'il est essentiellement pluriel et doit négocier son identité dans une écriture qu'elle qualifie d'écriture de frontière. C'est en témoignant des sentiments contraires suscités en elle par l'enfant que la narratrice rencontre une écriture à mi-chemin entre fixité et mobilité. Spécialiste de l'œuvre de Ying Chen, Rosaline Sylvester spécifie que contrairement à l'attachement, et je cite dans ma traduction libre de l'anglais, le détachement signifie une prise de distance envers les êtres, les objets et l'espace dans un temps précis. Fin de la citation. Constamment déchirée entre être une mère modèle ou être seulement un modèle de mère, s'éloignant ainsi des rôles et des responsabilités traditionnelles de la figure maternelle, l'incapacité de la narratrice à s'attacher entièrement à l'enfant dans Un enfant à ma porte renforce son décalage. Signifiant, il semblait d'ailleurs que je risquais de perdre les choses et les êtres dès que je leur devenais proche. Partagée donc entre rapprochement et prise de distance, elle avoue son inaptitude pour la stabilité, chaque difficulté à surmonter avec l'enfant l'amenant à reconsidérer son rôle maternel. L'omission de caractéristiques physiques, biographiques et culturelles de la mère perturbe, nous l'avons dit, sa représentation textuelle, créant un personnage dont les absences dans le langage ajoutent à l'effet d'étrangeté narrative. En avouant par ailleurs sa faillibilité, la mère rend compte de la différence de sa condition et aussi de son authenticité. Comme l'affirme Francis Langevin à propos de ce mode d'énonciation, et je cite, « Faire le choix de la faillibilité, c'est aussi choisir l'étrangeté à l'autre comme mode d'être dans le langage, une authenticité qui devient un gage de fiabilité. » Fin de la citation. Dans un discours empreint de la conscience de sa différence, la narratrice d'Un enfant à ma porte exprime la faillibilité de sa présence à l'autre, affirmant dès le début du récit qu'il se peut que j'aie imaginé tout cela. Je mêle tout, les souvenirs, les impressions, l'imagination, les croyances et les faits. L'une des caractéristiques de ma condition, celle qui déroute le plus les autres, c'est justement de confondre tout cela. En revendiquant donc un décalage constitutif, ce qu'elle nomme sa condition, la narratrice embrasse sa différence au lieu de tenter de la rétablir ou d'en réduire l'écart. En ayant un discours qui met de l'avant les contradictions relatives à son nouveau statut de mère, elle donne à voir l'opposition entre ce qu'elle dit être, c'est-à-dire une mère, et ce qu'elle fait en tant que telle. Par exemple, alors qu'elle enferme l'enfant dans sa chambre, en faisant poser verrou et grille de l'autre côté de la fenêtre, elle affirme, et je cite, « rendre la chose facile, le chemin de l'enfance facile, le chemin de la parenté facile. Il fallait éviter de tuer et de se tuer en mots et en labeur. » Fin de la citation. Par le fait même, cette posture énonciative fait perdre à la narration sa valeur de transmission, au sens où le lecteur doit travailler à combler une vacuité à la fois dans l'énonciation, mais également à même l'identité du personnage. Dans l'effet personnage, Vincent Jouve écrit que le personnage fictif, et je cite, « n'est jamais le produit d'une perception, mais d'une représentation qui se rapporte toujours à un élément qui n'est pas donné ou qui est absent et qui apparaît grâce à elle. » Fin de la citation. Autrement dit, la construction du personnage est problématisée dans un texte ne donnant pas directement les clés pour le comprendre dans ses désirs, ses motivations et ses rôles. Affirmant par ailleurs dans Querelle d'un squelette avec son double qu'il faut se méfier d'un rôle fictif qui finit par nous avoir, par s'infiltrer en nous, par nous manger du dedans. En regard d'une représentation narrative et ambiguë et à première vue contradictoire, Pierre Ouellette, dans Le soi et l'autre, l'énonciation de l'identité dans les contextes interculturels, mentionne, à propos de la représentation des minorités dans les narrations féminines contemporaines, que, et je cite, l'identité, dans un tel contexte, ne peut jamais être pleine. Il y a toujours un excédent identitaire d'une part et un bricolage identitaire de l'autre. Prévaut non pas le contenu identitaire, mais le mode de représentation du soi, empreint de la conscience d'une différenciation. Fin de la citation. En convoquant ainsi sa différence, l'être fictif éclaire le lecteur sur ses particularités, ses ambivalences, ses aspirations à être compris dans sa complexité et sa pluralité. C'est ce qu'affirme la narratrice dans Querelle d'un squelette, et je cite, « Peut-être faudrait-il s'abandonner dès maintenant, dès le début, aussitôt que possible, avant le commencement si on connaît son point de départ, cesser de réparer craintivement, de boucher les trous, obéir à toutes les voies, et d'abord à celle-ci, pour devenir plus que ce qu'on est, pour être ce qu'on ne peut pas être. » Confirmant plutôt sa pluralité que son unité, la narratrice contribue à son éclatement fictionnel. Le pluralisme qui caractérise les narratrices désigne leur altérité fondamentale. En effet, alors même qu'on ignore tout de leur origine, les narratrices pourraient être qualifiées d'exotiques au sens où Francis Langevin l'entend, puisqu'elles, et je cite, « mettent en évidence les inconforts interprétatifs auxquels la lecture fait face, en présence de récits dont le narrateur est exotisé. » C'est qu'en effet, ces narrateurs-personnages revendiquent volontiers leur altérité. Fin de la citation. Celle-ci est une des marques, une des causes de la déconstruction identitaire des narratrices. On la retrouve, par exemple, dans la contradiction de la description physique. Et je cite, « Curieusement, malgré une mémoire déjà longue et un corps qui semble avoir atteint la ménopause, je n'ai pas une seule ride sur le front, pas un seul cheveu blanc, le rythme du cœur est tout à fait normal, mais dans son parfait, ma longévité est presque garantie », précise la narratrice d'Un enfant à ma porte dès le début du récit. Pourtant, une dizaine de pages plus loin, après la découverte de l'enfant, elle se décrit déjà autrement, et je cite, « C'est comme si j'avais réellement porté l'enfant pendant des mois, et que par nostalgie, mon ventre vidé n'arrivait pas encore à se dégonfler. Peut-être jamais plus ne retrouverait-il sa forme passée. Peut-être la détérioration serait-elle définitive. Mes premières rides sur le front s'étaient déjà approfondies, celles au coin des yeux et des lèvres étaient maintenant évidentes. » Très rapprochées dans le récit, ces deux perceptions, à la fois transmises par la même voie narrative, mettent de l'avant une forme d'étrangeté comme manière d'être au monde et une incohérence énonciative participant toutes deux à l'instabilité de la représentation. La surenchère ou la surexposition de l'incertitude qui caractérise la narratrice, qu'elle soit positive ou négative, contribue à la méfiance du lecteur. Selon Marie-Pascale Huglot, la voix narrative témoigne de nouvelles fonctions dans les romans modernes, telles que celle d'assimiler l'hétérogénéité. Et je cite, c'est du retentissement de l'altérité même que la voix tirerait sa force commune, son accord discordant, sa jointure passagère. Fin de la citation. Cette résonance de la voix se joue souvent dans l'oscillation entre le « je » et le « nous » dans les récits d'Ying Chen. Alors que dans « Querelle d'un squelette », la narratrice affirme, et je cite, « non merci, pas de nous », l'invention de ce pronom est une erreur ou une ruse. Il n'y a que le « je » et les autres. La communion difficile entre la mère et l'enfant d'un enfant à ma porte semble, elle, se concrétiser. Et je cite, « pour me changer les idées, je l'ai amené à un marché envahi par une foule. » Nous avions besoin des autres pour nous distraire de notre relation intense et aussi pour admettre à nouveau combien nous étions proches l'un de l'autre et combien le reste du monde nous était étranger. » Fin de la citation. Cette union pourtant est toutefois temporaire, le « je » reprenant rapidement la narration. Mettant d'ailleurs à distance son mari et son enfant, qu'elle nomme pratiquement toujours « le père et l'enfant », la narratrice contribue à son isolement, confrontant ainsi le lecteur à l'ambiguïté des liens qui l'unissent à ses proches. En rapportant des propos entendus, elle fait une projection de sa propre incohérence, et je cite, « elle disait bien un enfant et non pas mon enfant, parce qu'avant même sa naissance, l'enfant serait déjà un individu et déjà séparé de sa mère. Je croyais que mon problème était tout autre. » Fin de la citation. Mais l'est-il vraiment? Le « je » montre ses propres failles, ses hésitations entre ce qui le sépare de l'enfant et leur possible symbiose. À divers endroits dans le récit, la narratrice parle de l'enfant à la fois comme une part d'elle-même. Et je cite, « il était si souvent dans mes bras ou sur mon dos qu'on aurait dit que nous formions un seul corps. » Puis, elle le décrit comme un être réellement distinct d'elle. Et je cite, « il n'y a aucun doute que l'enfant soit un individu à part entière, mais quand une femme devient mère, son individualité à elle est à moitié compromise. » Pour finalement évoquer la fatalité de leur relation, et je cite, « il n'y avait plus de rapport entre l'enfant et moi, puisque nous étions littéralement confondus en un seul être. » En retournant dans le jardin, là où il a trouvé l'enfant, la narratrice suggère qu'il ne pourrait être qu'un rêve, en affirmant être devant la possibilité de perdre mon enfant, la possibilité qu'un rêve en quelque sorte réalisé redevienne un rêve. De fait, cette narration intérieure semble constituer une sorte de miroir déformant, rendant difficile la distinction entre le rêve et la réalité. Le décalage du personnage dans l'œuvre de Ying Chen résulte donc de celui de la narration, alors que le personnage narrateur des deux romans étudiés tient un discours qui se construit dans et par la faille, dans la marge créée par le jeu des affirmations et des infirmations et des nombreux repositionnements. Le personnage chez Chen avance et recule à la fois dans l'affirmation de sa pluralité et dans la recherche de sa cohésion, le tout étant mis en place par un discours fragmenté par les marques de l'altérité, de la faillibilité, de l'inadéquation et de la remise en question. Le personnage chez Chen s'isole dans un discours qui problématise sa représentation et son identité. En fait, l'arrivée de l'enfant conduit la narratrice à vivre l'expérience d'être autre, telle que définie par Pierre Ouellet, et je cite, l'autre nous ouvre en deux, tout simplement, nous disjoint, nous écartèle. L'altérité est ce que nous avons en commun bien plus que l'identité. » Fin de la citation. L'enfant permet à la narratrice de vivre dans l'autre, d'être à la fois soi et autre, alors que les ressemblances entre la mère et l'enfant troublent leur représentation distincte dans le récit. L'écriture de Chen est une écriture de frontières qui convoque la pluralité des points de vue, les transgressions de la marge et des conventions romanesques, et qui réorganise la conception des écritures migrantes par une surenchère de la fiction dans le récit. En subvertissant les notions de fiction et de réalité, d'identité culturelle et d'identité nomade, Ying Chen crée une œuvre où l'hybridité du discours et de l'esthétique donne lieu à une posture qui se cherche dans les ambiguïtés, les incertitudes, la vraisemblance et l'imaginaire. Merci.
Donc, on va passer à la période de questions. Questions, commentaires, impressions. Oui? Oui.
Je peux bien briser la glace.
Vas-y.
J'avais envie de faire un lien avec Marie Ndiaye, puis ton rapport au corps un peu que tu exprimes avec la narratrice. Je ne sais pas si tu as lu Marie Ndiaye.
Malheureusement, non.
Non, ok. Juste rapidement, mais ça va mener à une question qui est un petit peu plus large. Donc, je t'ai embarrassé pas trop longtemps.
Ça va.
Simplement que ces personnages ont toujours un corps qui défaillit, qui va aussi en de pair avec le personnage, qui est dans défaillance, avec ce corps qui soigne, qui la sueur, les sécrétions aussi, et toute la honte. Et je retrouvais un peu la même chose avec le personnage, la narratrice, où est-ce que dans sa position de femme et de mère, il y avait un corps qui était un peu à cheval entre deux positions. Et je me demandais, au-delà d'une caractérisation plurielle et de l'auteur et de l'écrivaine migrante, est-ce qu'on peut parler aussi de cette incapacité-là aux femmes de choisir entre la maternité et la femme et d'aller dans une perspective d'un personnage, d'un archétype, d'un personnage féminin, au sens contemporain? Je ne sais pas si tu comprends un peu ma question.
Oui.
Mais j'avais envie d'aller dans un degré de généralité où on regardait le personnage contemporain de l'auteur-narratrice, de la narratrice, comme un archétype de ces questions-là, des femmes qui vivent dans le regard des autres, ces questions-là qui reviennent fréquemment dans la littérature actuelle. Je ne sais pas si tu vois un peu...
Ben, j'aurais de la misère d'emblée à dire que ça s'inscrit là-dedans, juste en regardant du fait que plusieurs romans, soit dans la première partie ou dans la deuxième partie de l'œuvre de Chen que j'ai plus présenté aujourd'hui, je pense d'abord au roman L'Ingratitude, où ce qu'il y a vraiment un rapport mère-enfant qui est tout à fait différent de celui que j'ai décrit, où il y a vraiment une inscription plus claire des personnages. On va parler des lieux, on va savoir où est-ce qu'ils transigent, on est en Chine, clairement, tout ça. Le fait ici que le roman soit vraiment plus comment je pourrais dire, parce qu'on n'a pas de repères justement des noms, de l'âge, tout ça, ça fait en sorte, je pense, que ben déjà Ying Chen revendique pas de position, elle se revendique pas écrivaine migrante, elle se revendique pas non plus représenter plus sa culture d'origine. Elle veut juste écrire pour écrire, elle veut comme problématiser un peu justement ce qui se passe pour elle, mais d'une autre manière. C'est pas aussi clair que ça. Donc, de dire qu'elle revendique une position de en regard de la femme ou des auteurs féminines, j'aurais de la difficulté à le dire, puisque justement, je pense qu'elle travaille vraiment la fiction pour justement sortir de positions déjà clairement identifiées.
Et le personnage aussi, dans le fond, est
ouais, je pense que ça répond à ta question.
Oui.
Autre question ou commentaire?
Mais en fait, je me demandais pourquoi est-ce que c'est un enfant à porte et que Red Bucket avec son loup qui sont mis en rapport dans cette. Qu'est-ce qui avait guidé le choix de ces deux lettres en particulier?
Ben c'était vraiment la notion de pluralité qui dans Querelle d'un squelette avec son double, c'était vraiment typographiquement c'était déjà apparent. Puis mais c'était surtout dans celui-là, c'était l'espèce de surenchère de vouloir vraiment revendiquer une pluralité dans la fiction, de l'affirmer tout ça, mais en même temps de montrer par le discours des deux voix qui semblent distinctes après la typographie, qui sont pourtant qui ont des positions qui se ressemblent, qui ont une certaine unité, un certain rapport. Et je trouvais que dans Un enfant m'apporte, ce qui était problématique quand j'ai lu ce roman-là, c'était justement de comprendre pourquoi que au début, elle va se décrire d'une certaine manière, après ça, elle va changer de position, puis par rapport à l'autre tout le temps. Donc c'est un peu... c'est sûr que j'aurais pu le lier avec sûrement un autre roman, des 8 romans qui forment un peu une continuité. Là, comme je le disais, c'est un peu les mêmes personnages principaux qui reviennent. Mais d'emblée, ces deux-là m'ont semblé dialoguer d'une certaine identité plurielle.
Tentation d'essayer de faire un parallèle avec ce qu'on a entendu ce matin, sont grossis de traits un peu. J'ai comme l'impression que dans le cas d'Yin Chen, il y a une constante explication interne de ce que l'on voit, de l'état du personnage. Alors que si on compare, disons, avec Alain Favart, on a de ce côté-là plus une espèce de feu d'artifice identitaire qui me paraissait moins constamment justifié, comme si on avait d'un côté un personnage incohérent, mais où c'est incohérent qu'il le soit, et dans ce cas-ci, on a une forme de pluralité ou d'hybridité du personnage qui est totalement justifiée par la situation, par l'univers, par le propos, par l'intériorité du personnage. Est-ce que c'est aller trop loin en faisant cette opposition-là? Et on protestera par ailleurs.
Je dirais pas que ce serait aller trop loin. C'est sûr que j'avais pas pensé, là. On a écouté la communication sur Alain Farah ce matin, mais c'est sûr qu'il y a une espèce de... Je sais pas si on pourrait dire que c'est un paradoxe, une contradiction, du fait que, justement, la narratrice, dans cette partie de l'œuvre de Ying Chen, veut vraiment comme sortir, justement, des catégories, s'identifier à l'extérieur de ça, mais qui va justement dire, ben c'est pour ça que je suis comme ça, c'est à cause de lui ou c'est à cause de telle situation. Mais encore plus que ça, je pense que ce personnage féminin-là, la narratrice, on va voir, justement, en faisant dialoguer différents récits où elle apparaît, on va voir une plus grande explication. En faisant dialoguer les deux récits, on voyait clairement que ce qui était vraiment plus la fiction dans Un enfant m'apporte apparaît dans l'autre comme juste une explication de ce qui se passe, de ce qu'elle vit, même si les univers sont un peu, ben, sont très, très flous et peu décrits, là. Donc, ouais, je pense qu'il y a une, il y a pas une, elle revendique pas une position, elle revendique son incohérence, mais différemment, je crois, de Alain Farah. Ouais.
Ça touche un peu aussi à ma question. Est-ce qu'il y a une répercussion sur le plan de la narration, ou parce que ça a l'air cohérent, justement, dans son trouble identitaire avec les autres, mais est-ce que, narrativement parlant, est-ce que c'est une narratrice qui est fiable? Est-ce qu'il y a des répercussions sur le plan de la narration, d'être composée un peu de son fils ou des autres?
Ben, à la lecture, c'est sûr que j'ai pris des extraits qui me permettaient d'exposer ce que je voulais dire, mais à la lecture d'emblée, c'est pas collé tel quel. Une phrase après l'autre va pas dire je suis comme ça, mais finalement je ne suis pas comme ça. C'est Alain Farah, c'était plus ça. C'est je suis un auteur, mais finalement je suis narrateur, mais dans le fond je suis personnage. C'est un peu dédoublé tout ça. Ouais, c'est ça. Mais non, ben en fait c'est ce que je voulais dire par le personnage est en décalage dans son œuvre, c'est qu'on sent vraiment dans la narration une espèce d'inadéquation à ce qu'elle dit versus ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Elle cherche tout le temps une identité, mais elle réussit pas à être cohérente. Donc je pense qu'il y a une faillibilité de ce côté-là.
Autre question?
Oui, que je réponds à...
Je sais pas, ça appelait, mais juste pour voir si c'était une grossièreté que ça appelait. Une
grossièreté? Je dirais non. Simplement, c'est vrai que ça ressemble à... Ben, ça ressemble, c'est, j'ai l'impression, un feu d'artifice d'incohérence, et je suis incohérent dans l'incohérence, et je ne m'explique pas, et je ne vous en dis pas plus, et... Effectivement, ça va dans cette lignée-là, et je crois que le personnage d'Alain Farah, justement, au contraire de Ying Chen, va donner à voir, va donner à chercher aussi, on va devoir chercher, et il ne fournira pas aucune indication sur son individualité, il va falloir les chercher, il va s'amuser justement à être incohérent, puis à nous laisser en train. Donc, effectivement, je considère que... On disait à propos de Matamor, le premier roman d'Alain Farah, que c'était une fête auquel on n'était pas assisté, on n'était pas invité à y assister. Et encore une fois, pour Pourquoi Bonhomme, c'est encore revenu ce commentaire-là, et je trouve que c'est surtout assez vrai, mis à part pour la partie de la fameuse fin. Il y a cette espèce de fête intellectuelle et un peu éclatée et incohérente à laquelle on assiste et on n'a pas véritablement accès. À la porte d'entrée, on la regarde par la fenêtre. Donc, il y a peut-être ça. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
Donc, merci beaucoup.
Merci.